Chapitre 10. Des figues et des souris. Elaine s'aperçut qu'on était en train de la porter à l'étage, la tenant par les épaules et les chevilles. Elle ouvrit les yeux et constata qu'elle y voyait encore. Pour le reste, son corps aurait pu appartenir à quelqu'un d'autre, tant elle le contrôlait mal. Même cligner des yeux lui prenait une éternité, et son cerveau semblait rempli de plumes.
« Elle est réveillée, maîtresse !»
couina Lucie, manquant lâcher les pieds d'Elaine.
« Elle me regarde ?»« Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter !»
fit maîtresse Makura, qui s'occupait des épaules d'Elaine.
« Avec une infusion de fourche racine, elle ne peut pas canaliser le pouvoir, ni même lever un petit doigt. J'ai découvert cette plante par hasard, mais elle est décidément très utile. »
Ça, la couturière pouvait le dire. Comme une poupée qui a perdu la moitié de son rembourrage, Elaine se balançait mollement entre les deux femmes, ses fesses heurtant régulièrement les marches. Quant à canaliser, autant lui demander de faire la course contre le vent. Elle sentait la source authentique, mais sans pouvoir l'atteindre, comme si elle essayait de ramasser une épingle sur un miroir avec les doigts engourdis par le froid. La panique la submergeant, la fille héritière sentit des larmes rouler sur ses joues. Ces femmes avaient-elles l'intention de la livrer au fils de la lumière afin qu'il l'exécute? Non, ça ne tenait pas la route. Les capes blanches n'étaient pas du genre à enrôler une couturière et sa petite main afin de piéger des Aes Sedai. Donc, ces femmes étaient des suppôts des ténèbres qui servaient sans doute l'Aja Noir, sous couvert d'être les agents des Sœurs Jaunes. En conséquence, elles livreraient Elaine à l'Aja Noir. Sauf si Nineveh s'était échappée. Mais si elle voulait s'enfuir, il ne fallait compter sur personne. Facile à dire, quand on ne pouvait ni bouger ni canaliser. Soudain, Elaine s'aperçut qu'elle tentait de hurler et ne parvenait qu'à produire un couinement pathétique. Cesser de se ridiculiser mobilisa le peu de force qui lui restait. Nineveh prétendait tout savoir des herbes, médicinales ou non. Pourquoi n'avait-elle pas reconnu cette infusion empoisonnée?
« Cesse de geindre !»
dit dans la tête d'Elaine une petite voix qui ressemblait curieusement à celle de Ligny.
« Un goret qui s'égosille derrière une clôture attire le renard, alors qu'il ferait bien mieux de détaler. »
Elaine se concentra pour tenter d'entrer en contact avec le Saïdar. Une tâche des plus simples jusque-là. En ce jour, elle aurait tout aussi bien pu tenter d'atteindre le Saïdin. Elle persévéra quand même, puisqu'elle ne pouvait rien essayer d'autre. Maîtresse Makura, elle, semblait parfaitement sereine. Dès que Lucie et elle eurent jeté Elaine sur un lit étroit, dans une chambre exiguë dotée d'une seule fenêtre, elle ressortit en entraînant sa complice avec elle. La tête inclinée, la fille héritière vit qu'il y avait un autre lit à côté du sien, et derrière, une grande commode avec des tiroirs aux poignées de cuivre terni. Si elle pouvait bouger les yeux, remuer la tête était au-delà de ses forces. Les deux femmes revinrent, essoufflées, et jetèrent Nineveh sur l'autre lit. Le visage défait et luisant de larmes, l'ancienne sage-dame avait dans le regard de la peur, certes, mais surtout une colère noire. Le « surtout » rassura Elaine, parce que Nineveh était bien plus puissante qu'elle quand la fureur la rendait capable de canaliser le pouvoir. Si ses larmes étaient inspirées par la colère, pas par le désespoir, elle réussirait peut-être là où Elaine avait lamentablement échoué. Après avoir dit à Lucie de rester là, maîtresse Makura repartit et revint assez vite avec un plateau qu'elle posa sur la commode. Elaine reconnut la petite bouilloire, une tasse, un entonnoir et un grand sablier.
« Lucie, veille à leur faire boire une tasse à chacune dès que ce sablier se sera vidé. Chaque fois et sans tarder surtout. Pourquoi ne pas les faire boire maintenant ?»
demanda Lucie en se tordant les mains.
« Je voudrais qu'elles se rendorment, parce que je n'aime pas qu'elles me regardent. Elles dormiraient à point fermé, gamine. En procédant ainsi, nous pourrons les réveiller juste assez pour qu'elles tiennent sur leurs jambes, quand nous en aurons besoin. » Je les assommerai pour de bon quand il sera temps de les expédier. Elles auront des crampes d'estomac, une sacrée migraine. Mais c'est bien fait pour elles, non? Et si elles réussissent à canaliser, maîtresse? Oui, si elles y parviennent. Elles me regardent. Arrête de dire des idioties, gamine. Si elles pouvaient canaliser, tu crois que ce ne serait pas déjà fait? Elles sont aussi impuissantes que des chatons dans un sac. Et elles le resteront tant que tu leur donneras la dose prescrite. Alors obéis-moi et ne discutaille plus. Je vais aller dire à Avi d'envoyer un de ses pigeons, puis je reviendrai dès que je me serai occupé d'une ou deux choses. Juste au cas où, tu devrais refaire de l'infusion. Je sortirai par derrière. Toi, ferme la boutique. Si quelqu'un avait l'idée d'y entrer, ce serait gênant.
Quand la couturière fut partie, Lucie resta un moment à regarder les prisonnières, toujours en se tordant les mains. Puis elle s'enfuit à son tour, ses gros soupirs devenant moins audibles à mesure qu'elle descendait l'escalier. Voyant de la sueur sur le front de Nineveh, Elaine espéra que c'était dû aux efforts qu'elle produisait et pas à la chaleur.
« Courage, mon ami !»
La fille héritière tenta elle aussi de s'unir à la source authentique, mais pas moyen d'y arriver. Si sa tête n'avait pas été si embrumée, peut-être que... Mais non. Tout ce qu'elle tentait échouait.
« Ne renonce pas, Nineveh, je t'en prie !»
Le sablier était dans son champ de vision et il l'obsédait. Chaque nouveau grain de sable semblant sonner le glas de ses espoirs. Finalement, la partie supérieure fut vide et Lucie ne s'était toujours pas remontrée. Elaine redoubla ses efforts pour atteindre la source et simplement pour bouger. Soudain, les doigts de sa main gauche remuèrent.
« Oui !»
Quelques minutes plus tard, elle parvint à relever la main. Très légèrement, mais c'était déjà ça. Et elle put tourner un peu la tête.
« Bats-toi !»
voulut crier Nineveh. En réalité, elle marmonna, mais c'était déjà ça. Les mains serrant le couvre-lit, elle tentait de se redresser. Sans parvenir à bouger d'un pouce, mais l'essentiel était de lutter.
« Ce que je fais !»
essaya de répondre Elaine. Un grognement plutôt qu'une phrase. Elle réussit pourtant à lever assez une main pour pouvoir la voir, et sans qu'elle retombe cette fois. Un exploit qui la remplit de fierté.
« Continue à avoir peur de nous, Lucie. Reste encore un peu dans la cuisine et... »
La porte s'ouvrit, laissant entrer la petite main. Elaine en aurait pleuré de rage. Elle était si près de réussir. La fille jeta un coup d'œil aux prisonnières, poussa un petit cri et se précipita vers la commode. Bien que maigrichonne, Lucie n'eut aucun mal à écarter les mains d'Elaine. Puis elle lui enfonça sans peine l'entonnoir dans la bouche. Alors que sa geôlière haletait d'angoisse, la fille héritière sentit couler dans sa gorge l'infusion froide et désormais amère. Aussi paniquée que sa victime, Lucie parvint pourtant à lui tenir la bouche fermée tout en lui massant la glotte, la forçant à avaler. Alors qu'elle sombrait de nouveau dans les ténèbres, la fille héritière entendit les gargouillis de protestation qu'émettait Nineveh. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Elaine constata que Lucie était repartie après avoir retourné le sablier. Sur l'autre lit, Nineveh avait les yeux exorbités. D'angoisse ou de colère, c'était difficile à dire. Mais l'ancienne sage-dame n'était pas du genre à capituler. Un trait de caractère, parmi bien d'autres choses, qu'Elaine admirait chez elle. Même la tête sur le billot, Nineveh n'aurait pas abandonné.
Une chance, parce que nos têtes sont sur le billot.
Elaine eut honte d'être à ce point plus faible que sa compagne. Destinée à devenir un jour reine d'Andorre, elle avait envie de hurler de terreur. Elle ne s'y autorisait pas, même intérieurement, luttant pour bouger de nouveau et atteindre le Saïdar. Mais elle en crevait d'envie. Comment porter une couronne lorsqu'on était si misérable? Alors que les grains de sable coulaient, elle continua de lutter, mais avec de moins en moins d'espoir. Une nouvelle fois, le sablier fut vide avant le retour de Lucie. Comme un peu plus tôt, Elaine réussit à lever une main, puis la tête, même si celle-ci retomba lourdement sur l'oreiller. À côté d'elle, Nineveh parlait toute seule, et presque tous ses mots étaient compréhensibles. Hélas, la porte s'ouvrit de nouveau. Désespérée, Elaine parvint à lever un peu la tête et... Elle poussa un petit cri de surprise. Tel le héros d'un de ses fabuleux récits, Tom Merrilline venait d'entrer, en tenant par le col cette petite chipie de Lucie. Dans l'autre main, le trouvère serrait un couteau, prêt à le lancer. Elaine eut un petit rire qui ressembla hélas au croassement d'un corbeau. Sans ménagement, Tom poussa la fille dans un coin de la pièce.
« Si tu bouges, j'aiguiserai ma lame sur ta peau !»
Se précipitant au chevet d'Elaine, le trouvère lui lissa le front, l'inquiétude le rendant encore plus ombrageux.
« Que leur as-tu fait avaler, gamine? Parle ou... »«
Pas elle, »
marmonna Nineveh.
« L'autre m'est partie. Aide-moi à me relever. Toi, marcher. »
Abandonnant Elaine à contre-cœur, en tout cas elle l'aurait juré, Tom montra son couteau à Lucie, une menace qui l'incita à se recroqueviller sur elle-même, puis le fit disparaître dans sa manche d'un coup de poignet. Hissant Nineveh sur ses jambes, il l'aida à marcher de long en large dans la petite chambre, la portant plus qu'il la soutenait.
« Je suis content d'apprendre que ce n'est pas cette petite chatte terrifiée qui vous a piégé. Parce que sinon... »
Tom secoua la tête de mépris. Si Nineveh lui racontait ce qui était arrivé, sans rien omettre, nul doute qu'il ne penserait pas grand bien non plus des deux victimes. Elaine, pour sa part, avait l'intention d'être muette comme une tombe.
Quand je l'ai vue, elle montait l'escalier, si paniquée qu'elle ne m'a pas entendu la suivre. Je suis plutôt mécontent que l'autre ait pu filer sans que Juline la voie. Elle risque de ramener du monde.
Elaine roula péniblement sur un côté.
Je ne crois pas, Tom. Elle ne peut pas révéler son identité à beaucoup de gens.
Encore une minute, et la fille héritière serait capable de s'asseoir. En attendant, elle regarda Lucie, qui sembla vouloir se fondre au mur.
Les capes blanches lui réserveraient le même sort qu'à nous. Joéline,
fit Nineveh. La tête oscillant encore, elle foudroya le trou vert du regard.
Je vous avais dit de rester avec le chariot.
Tom soupira d'agacement, ce qui fit onduler sa moustache.
Tu nous as chargé de ranger le ravitaillement, et il ne fallait pas deux hommes pour ça. Joéline vous a suivi. Ne voyant revenir personne, je suis venu voir ce qui se passait. Il aurait pu y avoir 10 hommes ici, ça n'aurait pas empêché de voler seul à votre secours. Il est en train d'attacher Rôdeur dans le jardin. J'ai eu une bonne idée de venir à cheval. Ça me sera bien utile pour vous ramener.
Elaine réussit à s'asseoir en se hissant le long du couvre-lit. Et quand elle tenta de se lever, elle manqua retomber sur le dos. Sa tête ressemblant toujours à un oreiller de plumes d'oie, le Saïdar lui restait tout à fait inaccessible. Un peu moins hésitante sur ses jambes, Nineveh s'accrochait encore à Tom. Quelques minutes plus tard, Joéline entra, son couteau caressant les reins de Ronde Makura, qui n'en menait pas large.
« Elle est entrée par le jardin. Cette idiote m'a pris pour un voleur. J'ai jugé bon de la garder avec moi. »
Blanche comme un linge, ses yeux en paraissant beaucoup plus sombres, la couturière tirait sur le devant de sa robe en jetant de fréquents coups d'œil à la lame de Joéline, comme si elle envisageait de s'enfuir, quelles qu'en puissent être les conséquences. Fixant pour l'essentiel ces deux prisonnières, elle paraissait hésiter entre s'évanouir ou éclater en sanglots.
« Pousse-la à côté de l'autre !»
dit Nineveh à Joéline.
« Et aide Elaine à se relever. Je n'avais jamais entendu parler de la fourche racine, mais marcher semble en dissiper les effets. Ça vaut pour beaucoup de drogues. »
Joéline n'eut qu'à pointer son couteau. Aussitôt, maîtresse Makura alla s'asseoir à côté de Lucie et s'humecta nerveusement les lèvres.
« Je n'aurais pas fait ça !»
dit-elle.
« Mais j'avais des ordres !» « Il faut me comprendre, j'avais des ordres !»
Quand Elaine fut debout, Joéline l'aida à marcher de long en large dans la chambre, les deux couples se croisant de justesse dans cet espace exigu. La fille héritière regretta de ne pas être enlacée par Tom. Joéline avait des façons un peu trop cavalières.
« Des ordres de qui ?»
lança Nineveh.
« Pour qui travailles-tu à la tour ?»
Sur le point de défaillir, la couturière tint néanmoins sa langue.
« Si tu ne parles pas !»
menaça Nineveh.
Je te confierai au bon soin de Joéline. C'est un pisteur de voleurs théariens, aussi prompt à arracher des aveux qu'un confesseur des capes blanches. Pas vrai, Joéline ?
Une corde pour l'attacher,
lâcha le théarien avec un rictus qui fit sursauter Elaine.
Un bâillon pour qu'elle ne nous casse pas les oreilles. De l'huile et du sel.
Il ricana au grand effroi d'Elaine.
Elle parlera, c'est garanti.
Maîtresse Makura se plaqua contre le mur, les yeux menaçant de jaillir de leurs orbites. Lucie regardait Joéline comme s'il s'était soudain métamorphosé en Trolloc, 8 pieds de haut et des cornes sur la tête.
« Puisque c'est comme ça, »
murmura Nineveh après un court silence.
« Joéline, tu trouveras tout ce qu'il te faut dans la cuisine. »
Elaine regarda alternativement le pisteur de voleurs et l'ancienne sage-dame. Il ne pouvait pas être sérieux. Pas Nineveh.
« Narinwin Barda !»
s'écria la couturière.
« J'envoie mes rapports à Narinwin Barda. Son adresse, c'est une auberge de Tarvalon appelée Vers l'amont du fleuve. Avishendar me fournit des pigeons voyageurs, mais il ignore à qui j'envoie des messages et de qui j'en reçois. De toute façon, il s'en fiche. Sa femme souffre d'épilepsie et… »
Ronde Makura se tut, les yeux rivés sur Joéline. Elaine connaissait Narinwin. En tout cas, elle l'avait vue à la tour. Une petite femme éthique, dont on finissait par oublier la présence tant elle était discrète. Une gentille femme aussi. Un jour par semaine, elle permettait aux enfants de lui amener leurs animaux familiers afin qu'elle les guérisse. Bref, pas le profil d'une sœur noire. Cela dit, sur la liste figurait le nom de Marilyn Gemalfin, qui adorait les chats et ne reculait devant aucun effort pour s'occuper des bêtes abandonnées.
« Narinwin Barda »,
répéta Nineveh.
« Je veux d'autres noms, à l'intérieur et à l'extérieur de la tour. Je n'en connais pas. Nous verrons bien. » « Depuis quand es-tu un suppôt des ténèbres ? Et quand es-tu entré au service de la Janoire ?»« Nous ne sommes pas des suppôts !»
s'écria Lucie. Lorgnant la couturière, elle s'éloigna d'elle.
« Enfin, pas moi ! Je marche dans la lumière !»
Ronde Makura réagit tout aussi violemment.
« La Janoire ? Il existe vraiment ? Mais la Tour Blanche a toujours nié que… Le jour où elle m'a engagé, j'ai posé la question à Narinwin, et ensuite, je n'ai pas pu cesser de pleurer avant le lendemain, quand je suis sorti péniblement de mon lit. » Je ne suis pas un suppôt des ténèbres. Je sers l'âge à jaune et personne d'autre. »
Toujours accrochée au bras de Juline, Elaine échangea un regard interloqué avec Minevée. Tous les suppôts se défendaient de l'être, bien entendu, mais il y avait un accent de sincérité dans la voix des deux femmes. Face à de telles accusations, leur indignation passait avant la peur. À voir l'hésitation de Minevée, Elaine devina qu'elle pensait comme elle.
« Si tu sers l'âge à jaune, »
fit l'ancienne sage-dame.
« Pourquoi nous as-tu drogués ?»« À cause d'elle, »
répondit Rondé Makura en désignant Elaine.
« On m'a fait parvenir sa description il y a un mois, dans les moindres détails, jusqu'à sa façon de relever le menton pour regarder les gens de haut. Narenwin précisait qu'elle pouvait prétendre se nommer Elaine et appartenir à une maison noble. »
À mesure qu'elle parlait, l'indignation de la couturière lui faisait hausser le ton.
« Vous êtes peut-être une Aes Sedai, mais elle, c'est une acceptée en fuite. Narenwin m'a ordonné de signaler sa présence, et celle de toute personne l'accompagnant. Et de la retarder, voire de la capturer, ainsi que ses compagnons. Moi, capturer une acceptée ? Je doute que Narenwin connaisse ma tisane, mais c'est quand même ce qu'elle m'a chargé de faire. Au risque de brûler ma couverture s'il le fallait. Ici, où ça me coûterait la vie. Attends un peu que la chair d'Amirline te mette la main dessus, ma petite. Et pareil pour vous tous.
La chair d'Amirline ?
S'écria Elaine.
Quel rapport a-t-elle avec cette histoire ? Par ordre de la chair d'Amirline, ça ne vous dit rien ? Sauf vous tuer, je suis autorisé à tout faire pour vous appréhender. Quand elle s'occupera de vous, vous regretterez de n'être pas morte.
La couturière ponctua sa tirade d'un hochement de tête rageur.
« Pour le moment, personne ne s'occupe de nous, »
rappela Minevée.
« Et c'est toi qui es entre nos mains. »
Malgré son calme apparent, elle était aussi stupéfiée qu'Elaine, ça semblait évident.
« T'as-t-on donné des explications ? »
Le rappel à l'ordre de Minevée ayant touché son bref enthousiasme, la couturière se serra contre Lucie, chacune empêchant l'autre de tomber.
« Non. Parfois, Narenwin m'informe de ses motivations, mais pas dans ce cas. » Tu comptes à nous garder ici, drogués, jusqu'à ce qu'on vienne nous chercher ? Non, je vous aurais envoyé dans un chariot, vêtu de haillons.
Désormais, la couturière ne résisterait plus.
J'ai fait partir un pigeon pour annoncer votre capture à Narenwin et l'informer de mes intentions. Terrine Louguet me doit une sacrée faveur. Je pensais lui confier assez de tisane pour que vous lui fichiez la paix jusqu'à Tarvalon. Je lui ai dit que vous étiez malade et qu'il fallait ça pour vous tenir en vie jusqu'à ce qu'une Aes Sedai vous guérisse. En Amadicia, une femme doit être très prudente en matière de thérapie. Si elle soigne trop bien ou trop de gens, quelqu'un murmure qu'elle est une Aes Sedai, et sa maison a vite fait de brûler. Et encore, ce n'est pas le pire. Terrine sait tenir sa langue sur...
Minevée fit signe à Tom de la faire approcher de Rondé, afin qu'elle puisse la regarder de haut.
Et le message ? Le vrai, je veux dire. Tu n'as pas accroché le signal simplement pour nous piéger. C'est toi le vrai message ? Pourquoi en aurais-je inventé un ? Je ne comprends pas son sens profond et...
La couturière éclata en sanglots, s'accrocha à Lucie aussi fort que celle-ci s'arrimait à elle, et toutes deux se mirent à gémir.
« Par pitié !»
implora maîtresse Makura.
« Pas le sel ! Et ne laissez pas utiliser le sel sur moi » « Attachez-les !»
dit Minevée aux deux hommes.
« Puis nous irons parler en paix dans la cuisine. »
Tom aida l'ancienne sage-dame à s'asseoir au bord du lit, puis il entreprit de déchirer le couvre-lit en lanière. En un clin d'œil, les deux femmes se retrouvèrent saucissonnées dos à dos, les poignets de l'une reliées aux chevilles de l'autre, et bâillonnées avec des morceaux de couvre-lit. Elle sanglotait toujours lorsque Tom aida Minevée à sortir de la chambre. Incapable de tenir debout aussi bien que sa compagne, Elaine dut s'accrocher à Juline pour ne pas s'étaler dans l'escalier. Voir un bras de Tom autour des épaules de Minevée éveilla sa jalousie. Un pincement, mais quand même.
« Tu es une stupide petite fille !»
la tensa la voix de Lini.
« Non, je suis une adulte !»
se défendit Elaine avec une fermeté dont elle n'aurait pas osé faire montre face à sa vieille nourrice, même à présent.
« J'aime Rand, mais il est loin d'ici. » Et Tom a de l'éducation, une brillante intelligence et...
Voilà qui ressemblait trop à des prétextes, même aux propres oreilles d'Elaine. D'un ricanement, Lini aurait indiqué qu'elle avait entendu assez de niaiseries comme ça.
Juline, qu'aurais-tu fait avec de l'huile et le sel ? Inutile de me donner des détails. Une idée générale suffira.
Le pisteur de voleurs ne répondit pas tout de suite.
N'en sais rien. Mais les deux idiotes, en revanche, c'est toute l'astuce. Leur imagination a fait tout le travail. Un jour, un vrai dur a craqué quand j'ai demandé qu'on m'apporte un panier de figues et quelques souris. Cela dit, il faut faire attention. Certaines personnes avoueraient n'importe quoi pour échapper aux tortures qu'elles imaginent. Mais je doute que ce soit le cas de ces deux-là.
Elaine partageait cette opinion.
Mais comment torturer quelqu'un avec des figues et des souris ?
Se demanda-t-elle en frissonnant. Une question qu'elle avait intérêt à oublier, si elle ne voulait pas avoir des cauchemars. Quand Juline et Elaine entrèrent dans la cuisine, Minevée, de nouveau ingambe, était en train de fouiller le placard plein de pots multicolores. La fille héritière, elle, fut obligée de s'asseoir. Le pot bleu était de nouveau sur la table, près d'une petite bouilloire verte, mais elle s'efforça de ne pas les regarder. Incapable de canaliser, elle pouvait s'unir au Saïdar, mais il lui glissait entre les mains comme une anguille. Cela dit, le pouvoir reviendrait à elle, c'était sûr. Le contraire la terrifiait tant qu'elle s'était interdit d'y penser jusqu'en cet instant. Sans cesser de soulever les couvercles de plusieurs pots, Ninevé marmonna.
« Tom, Julien. »
Toujours sans regarder les deux hommes, elle ajouta.
« Merci beaucoup. Je commence à comprendre pourquoi les Aes Sedai ont un champion. »
Les Aes Sedai, mais pas toutes, puisque les Sœurs Rouges considéraient que tous les hommes étaient souillés, à cause des désastres que provoquaient les mâles capables de canaliser. Certaines sœurs d'autres Aja n'avaient pas besoin d'un protecteur, parce qu'elles ne quittaient jamais la tour. D'autres encore ne remplaçaient pas un champion défunt. Dans l'Aja Vert, en revanche, le seul cas sur sept, une sœur avait le droit de se lier à plusieurs champions. C'était l'ordre qu'Elaine voulait rejoindre. Pas à cause de cette coutume, mais parce qu'il s'agissait d'un Aja guerrier. Alors que les sœurs marrons étaient en quête de connaissances perdues, les bleus s'investissant à fond dans de grandes causes, les vertes se préparaient à l'ultime bataille. Comme à l'époque des guerres des Trollocs, elles seraient en première ligne pour affronter les seigneurs de la terreur. Pour l'heure, Tom et Julien se dévisageaient, les yeux ronds. À coup sûr, connaissant Ninevé, ils ne s'étaient pas attendus à ça. Et Elaine partageait leur stupéfaction. Ninevé détestait presque autant être aidée qu'avoir tort. Quand ça arrivait, et malgré ses hautes dénégations, elle montait littéralement sur ses ergots.
« Une sage dame !»
murmura-t-elle, en reniflant puis en goûtant sur le bout du doigt la poudre d'un des pots.
« Je ne sais pas quel nom on leur donne ici. »«
Il n'existe pas de nom, » répondit Tom. « Et très peu de guérisseuses. En Amadicia, c'est trop dangereux. Alors les femmes font ça sous le manteau. »
Sortant un sac de cuir du placard, Ninevé commença à y fourrer certains pots.
« Et où vont les gens ici quand ils sont malades ? Chez des rebouteux ?»«
C'est ça, oui, »
dit Elaine, ravie de montrer à Tom qu'elle en savait long sur le monde.
« En Amadicia, ce sont les hommes qui étudient les herbes médicinales. Comment un homme pourrait-il soigner quoi que ce soit ? Autant demander à un maréchal ferrant de me coudre une robe. »
Elaine s'avisa soudain qu'elle avait pensé à toutes sortes de choses, sauf à ce qu'avait dit Ronde Makura. Ça lui remit en mémoire un des dictons favoris de Lini. « Faire semblant d'ignorer une épine n'aide pas à avoir moins mal aux pieds. »
« Ninevé, que voulait dire ce message d'après toi ? Toutes les sœurs sont invitées à revenir à la tour. Ça n'a pas de sens. »
La fille héritière aurait préféré dire les choses plus directement, mais bon, elle n'en était pas très loin en parlant comme ça.
« La tour blanche a ses raisons que seule la tour blanche connaît, » dit Tom. « Les Aes Sedai agissent pour des motifs qui les regardent, et ce sont rarement ceux qu'elles clament en public. Quand elles en clament. »
Tom et Julien savaient que les deux jeunes femmes n'étaient que des acceptées, entre autres raisons, par exemple, l'inévitable apparition d'une certaine familiarité matérialisée au fil du voyage par l'usage généralisé du tutoiement. C'était pour ça qu'ils obéissaient très approximativement aux ordres. Ninevé était en proie à un conflit intérieur qui s'afficha sur son visage. Dans la longue liste des choses qu'elle détestait, figurait aussi le fait qu'on ose l'interrompre ou qu'on se permette de répondre à sa place. Mais elle venait à peine de remercier Tom, et il semblait délicat, même pour elle, d'incendier un homme qui lui avait épargné de voyager comme un sac de patates au fond d'un chariot.
« Il n'est pas rare que les choses n'aient pas de sens à la tour, »
dit-elle entre ses dents. Une remarque acerbe qui visait autant Tarvalon que Tom, au minimum.
« Tu crois à ce que la couturière a raconté à mon sujet ?»
demanda Elaine.
« La chère d'Amerline aurait ordonné qu'on me ramène coûte que coûte. Je n'en sais rien, mon ami, »
répondit Ninevé, avec dans le regard quelque chose qui ressemblait à de la compassion.
« Elle ne mentait pas, »
déclara Julien. Retournant une chaise, il s'assit à l'envers, son bâton posé contre le dossier.
« J'ai interrogé assez de voleurs et d'assassins pour savoir quand on ment ou non. La plus grande partie du temps, cette femme était trop effrayée pour mentir, et trop en colère, sinon… »«
Décidément, les hommes changent, »
soupira Ninevé. Jetant son sac sur la table, elle croisa les bras, comme si elle voulait garder ses mains le plus loin possible de sa natte.
« Elaine, j'ai bien peur que Julien ait raison. » « Mais la chère d'Amerline sait pertinemment ce que nous sommes en train de faire. C'est elle qui nous a envoyés en mission après tout. Venant de Suan Sanche, rien ne m'étonne. J'aimerais bien la voir en face de moi à un moment où elle ne peut pas canaliser. On verra si elle est si coriace que ça. »
Elaine aurait parié que ça ne ferait pas la moindre différence. Si son souhait était exaucé, une éventualité hautement improbable, Ninevé risquait de récolter pas mal de plaies et de bosses, c'était couru.
« Et qu'allons-nous faire ? Les Aja ont des yeux et des oreilles partout. Nous risquons de rencontrer dans chaque village une femme disposée à nous droguer.
Pas si nous changeons d'apparence, dit Ninevée en posant sur la table, près de la bouilloire, une cruche jaune.
C'est de la bourse de capucin, une variété de capsule blanche. Radicale contre une rage de dents, mais aussi pour teindre en noir des cheveux.
Elaine porta une main à sa belle chevelure blonde. Bien sûr, c'était de la teindre elle que parlait Ninevée, une idée qu'elle trouvait détestable, et qui était néanmoins excellente.
Un peu de travail sur le devant de nos robes. Quelques coups d'aiguille, quoi. Et nous ne serons plus des négociantes, mais des dames qui voyagent avec leurs serviteurs.
Dans un chariot plein de tonneaux de teinture ?
Demanda Jouilline. D'un regard noir, Ninevée rappela au pisteur de voleurs que la gratitude avait des limites. Et oui, même la sienne.
De l'autre côté du pont, j'ai vu un coche dans une cour de ferme. Je pense que le propriétaire acceptera de nous le vendre. Si notre chariot est encore là, quelle idée de l'avoir abandonné pour que n'importe qui le vole. Allez-y, récupérez une bourse.
Quelques badauds écarquillèrent les yeux quand le coche de Neu-Torvald, tiré par 4 chevaux, s'arrêta devant la boutique de Rondemakura. D'autant plus que des coffres étaient attachés sur le toit et qu'un cheval de monte le suivait, attaché au véhicule par sa bride. Ruiné par l'arrêt brutal du commerce avec le Tarabone, Neu vivotait désormais en servant d'homme de peine à la veuve Terran. Grand, le visage buriné, le regard froid au-dessus de sa longue moustache, l'homme assis sur le siège du cocher était un inconnu. Il en allait de même du valet affublé d'un chapeau conique du Tarabone, qui s'empressa d'aller ouvrir une portière. L'étonnement populaire grandit encore lorsque 2 femmes sortirent de la boutique, chacune ayant des paquets dans les bras. L'une portait une robe de soie verte, l'autre était vêtue de laine bleue, mais toutes 2 arboraient autour du crâne un foulard, qui interdisait d'apercevoir une mèche de cheveux. Vives comme l'éclair, elles bondirent dans le coche, le valet refermant aussitôt la portière. 2 fils de la lumière interrogèrent aussitôt les passants sur l'identité de ces dames. Mais le cocher, sans même attendre que le valet se soit correctement installé à côté de lui, fit claquer son fouet et cria qu'on cède le passage à une certaine dame dont le nom, bizarrement, échappa aux 2 pauvres capes blanches, contraints de s'écarter à la hâte pour ne pas se retrouver dans la poussière. Au galop, le coche fonçait déjà vers la route d'Amador. Les curieux se dispersèrent en discutant entre eux. Une mystérieuse dame et sa servante venaient à l'évidence de faire des emplettes chez maîtresse Makura. Pour une raison inconnue, elle n'avait pas tenu à s'attarder en compagnie de Fils de la Lumière. Sachant qu'il ne se passait strictement rien à Mardessine ces derniers temps, l'affaire alimenterait les conversations pendant des jours. Furieux, les 2 fils s'époussetèrent en éructant des jurons. Réflexion faite, ils décidèrent de passer sous silence un incident où ils étaient loin d'avoir eu le beau rôle. Leur capitaine étant allergique aux nobles, ils risquaient de les envoyer poursuivre le coche, une longue chevauchée sous la chaleur, pour appréhender quelques donzelles d'une maison sans importance. Et si on ne trouvait rien contre la dame, avec les nobles c'était plus délicat qu'avec la populace, ce ne serait bien entendu pas l'officier qui se ferait souffler dans les bronches. Pensant d'abord à leur dignité mise à mal, et ensuite aux ennuis qu'ils allaient s'épargner, les 2 hommes ne songèrent pas une minute à interroger Rondemakura. Peu après, Terrine Lougay conduisit son chariot, rempli de provisions pour le voyage, dans le jardin de derrière de la boutique. Rondemakura l'ayant effectivement guéri d'une fièvre qui avait fait mourir 23 personnes l'hiver précédent, il lui devait une faveur. Mais c'était surtout à cause d'une épouse acariâtre et d'une belle-mère envahissante que le pauvre homme partait d'un cœur presque léger pour la lointaine cité où vivaient des sorcières. Selon Rondé, quelqu'un viendrait peut-être à sa rencontre, mais il espérait que non, histoire de pouvoir aller jusqu'à Tarvalon. Après avoir tapé 6 fois à la porte de la cuisine, Terrine se décida à entrer. Ne trouvant personne, il monta à l'étage et découvrit Rondé et Lucie dans la chambre, chacune dormant à poing fermé sur un lit. Tout habillée et en plein jour. Mais bon. Les 2 femmes se révélant impossibles à réveiller, Terrine s'étonna de voir qu'un découvre-lit avait été taillé en lambeaux. Il jugea aussi étrange qu'il y ait 2 bouilloires sur la commode pour une seule tasse. Et que fichait donc cet entonnoir sur l'oreiller de la couturière? Conscient depuis toujours que bien des choses en ce monde lui échappaient, le brave homme retourna jusqu'à son chariot. Songeant à l'argent que Rondé lui avait donné, puis à sa femme et à sa redoutable belle-mère, il sortit du jardin avec la ferme intention d'aller enfin voir à quoi ressemblait l'Altara ou le Morandi. Pas mal de temps plus tard, les cheveux en bataille, Rondemakura se traîna jusque chez Avishendar pour lui demander d'envoyer un pigeon voyageur. Lesté d'un message, l'oiseau s'envola comme une flèche en direction de Tarvalon. Après un moment de réflexion, Rondé rédigea une copie de son texte et la confia à un autre pigeon. Celui-ci s'envolant vers l'ouest, vers le destinataire à qui elle avait promis de faire parvenir un duplicata de tous ses messages. En des temps difficiles, une femme devait faire flèche de tout bois pour subsister, et les rapports qu'elle expédiait à Narenwin n'avaient rien de secret d'État. Craignant de ne jamais pouvoir s'enlever de la bouche le goût de la fourche racine, la couturière n'aurait de toute façon pas vu d'un mauvais œil que son rapport, ou la copie, attire des ennuis à une certaine Ninévée. Aux petits soins pour son potager, comme d'habitude, Avi ne prêta aucune attention à ce que faisait Rondé. Quand elle fut partie, là aussi c'était un rituel, il se lava les mains et entra chez lui. Approchant de la table, il examina la grande feuille de parchemin qui servait de support à Rondé quand elle rédigeait ses messages. En tenant la feuille au soleil, lire ce qu'avait écrit la couturière était un jeu d'enfant. Un nouveau pigeon ne tarda pas à partir, dans une troisième direction.